France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Clara Ludwig, je suis très content d'être invité, surtout pour parler de Moeb sur le Barking. J'avais vraiment énormément aimé Merel, et là encore avec votre nouvel ouvrage, j'ai encore pris une sacrée baffe.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un enfant est un enfant aujourd'hui. Dans votre book club, c'est tout le sens d'une législation qui devrait protéger réellement celles et ceux que l'on appelle les mineurs non accompagnés, jeunes personnes ayant quitté leur pays pour tenter de vivre mieux, de vivre tout court en Europe, en France, en Belgique. C'est sur un parking belge que Moeb, jeune afghan, vit avec plusieurs de ses camarades d'infortune quand il ne passe pas une nuit chez Madame Sonia, Madame Sarah ou Madame Julie, femme du village offrant régulièrement le logis. Dans une bande dessinée tout en sens Sensation, Clara Ludwig déplie les minutes et les heures de la vie de ce jeune homme, le lien à la mère, au passé, l'attente des demandes d'asile, l'amour et le danger que constitue, semble-t-il, le monde des adultes pour l'enfance en général. L'autrice est notre invitée. Après cela, justement, et comme chaque semaine, rendez-vous avec Lecture Jeunesse. Mathilde Wagman évoque aujourd'hui une BD parodie de roman noir. Et en fin d'émission, on joue évidemment avec vous au grand jeu des pages musicales. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club.
Bonjour le Book Club, bonjour Clara.
Et bonjour Clara Ludwig.
Bonjour Marie. Je...
Soyez la bienvenue. Moeb sur le parking, apparu aux éditions Dupuis dans une collection qui s'appelle Les Ondes Marcinelles. Ce sera le cœur de notre conversation dans un instant. Mais ici, tout commence toujours par le portrait de nos invités en tant que ce sont des lecteurs ou des lectrices. Peut-être pour voir les chemins, ou plutôt les livres qu'ils ont trouvés sur leur chemin. On vous présente comme étant... ce qu'on peut appeler un enfant de la balle, enfin quelqu'un qui aurait grandi au milieu de deux personnes qui faisaient de la bande dessinée. Est-ce que ça a joué sur votre vie de lectrice ?
Évidemment, oui. Donc mon père était, enfin est toujours d'ailleurs scénariste de bande dessinée et ma mère est coloriste, comme souvent les femmes ouais. de sa génération, voilà. Et donc j'ai grandi dans un appartement où il y avait plein de BD. D'ailleurs il n'y avait que ça et donc j'ai évidemment eu un accès privilégié à la lecture de bandes dessinées dès ma naissance en fait. Hein.
Vous en avez fait bon usage de cet accès privilégié ?
Je pense que oui parce que j'avais accès notamment à tous les grands classiques de la BD et donc ça m'a permis de me forger une bonne culture de base sur laquelle maintenant j'essaie de construire pour faire mes propres histoires.
Vous pensez à quoi quand vous parlez des grands classiques de la BD ?
Les grands classiques, je sais pas, en tout cas je sais que mes tout premiers souvenirs des lectures de bande dessinée, c'est la BD Philémon. Pour moi c'est un grand classique, après je pense que c'est pas vu comme un grand classique.
Cette BD Philémon ?
C'est une bande dessinée qui a été dessinée dans les années 70, je pense, par le dessinateur Fred. Et c'est complètement surréaliste, c'est très bizarre. Et en fait, Philémon va sur des lettres de l'océan Atlantique, c'est des lettres de l'alphabet. Et donc j'ai appris, enfin je me souviens que j'apprenais un peu à lire avec ça quoi.
Des lettres qui sont au milieu de l'eau ?
Ouais c'est ça, en fait c'est comme si, vous voyez vous avez une carte de l'océan Atlantique, ouais. Et ben il y a écrit océan Atlantique.
Ouais.
Et ben Fred a imaginé que...
On pouvait sauter d'une lettre
à l'autre. Que c'était des îles quoi.
Îles, quoi.
Ouais. Ouais. Donc c'est super chouette, ça réveille complètement l'imaginaire. Et mon père me lisait ça à voix haute, et donc il faisait des voix des personnages.
Et parfait aussi quand on apprend à lire du coup.
Oui, tout à fait. Après, moi j'étais néerlandais, enfin quand j'étais petite j'allais à l'école en néerlandais, donc c'était très difficile pour moi de suivre en français. Voilà.
Mais néanmoins ça vous familiarisait avec la lettre O, la lettre C,
le
la
A.
Lettre E, la lettre A, la lettre
N. A-T-N, ouais. Oui. Atlantique.
Peut-être c'est intéressant de parler justement de cette question de la langue qui est si prégnante en Belgique. Ça aussi, quelle influence ça a eu sur votre vie de lectrice ?
Eh bien, c'est compliqué parce que ça fait un peu comme une sorte de... J'ai l'impression d'avoir parfois deux vies en parallèle culturellement. Parfois, j'ai du mal à lier les deux. Mais par exemple, quand j'étais petite, finalement, mes premières lectures de petite fille, c'était un livre illustré pour enfants très, très, très connu aux Pays-Bas et en Flandre, en Belgique, qui s'appelle Pluk van de Petteflet, qui est vraiment une lecture formidable, avec un petit garçon qui peut faire ce qu'il veut, qui a une petite maison, une petite voiture, il vit sa vie.
D'adulte ?
Il vit une vie d'adulte, mais en tant qu'enfant, quoi. Et donc, c'est génial, voilà. Et c'est vrai que...
Donc ça, tout en néerlandais.
Tout ça est en néerlandais, en fait, oui. Et j'ai appris à lire en néerlandais. Mais mes BD à la maison, elles étaient en français. Donc,
parce que
Parce que mon père était francophone et que la BD en Belgique, en général, à part Bob et Bobette, qui est la meilleure série du monde et qui est en néerlandais, généralement, c'est en français, en fait. Et donc, j'ai été obligée d'apprendre le français pour pouvoir vraiment lire les BD.
Et c'était une motivation parmi une autre de pouvoir lire les BD, déchiffrer tout ce royaume de BD autour de vous ?
Ah oui, je pense que oui, parce que sinon je devais attendre l'histoire du soir et j'avais plein de BD donc qui attendaient que d'être lus. Moi, donc il était hors de question d'attendre. Donc non, j'ai appris. Mais du coup, voilà, lire le français alors qu'on apprend à lire en néerlandais, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, le français c'est très compliqué d'ailleurs comme langue, donc. Voilà, c'était très, c'était un grand bazar, oui.
Et ça continue à être deux vies de lectrice parallèles pour vous, Clara Lodvik ?
Oui. Ben, voyez les livres qu'on est obligé d'apprendre, enfin qu'on est obligé de lire à l'école. Ben, en néerlandais, la littérature, elle n'est pas hyper, elle n'est pas développée autant qu'en France, évidemment. Et donc, il n'y avait pas tant que ça. Donc, souvent, on lisait quand même des livres de la littérature francophone, mais en néerlandais. Par exemple,
vous pensez à quoi qu'un classique français que vous auriez lu en traduction néerlandaise ?
Je vais vous donner un vrai classique que je n'ai jamais lu en français, Madame Bovary.
Et c'est quoi le titre ?
Mevrouw Bovary.
Bah oui, évidemment.
Non, peut-être que c'était aussi Madame Bovary en néerlandais, mais oui, c'était en néerlandais. Donc,
et ça, vous l'avez lu
que en néerlandais. C'est honteux, hein.
Mais non, j'adore, c'est génial. Ça veut dire que vous avez cette langue-là dans votre oreille, ce texte-là qui est vraiment un canon de la littérature française, en néerlandais.
Oui, oui. Oui. Bah après, franchement, les traductions sont terribles. Généralement pas terribles.
Et vous avez d'autres exemples comme ça ?
Non, parce que j'ai quand même essayé, puisque j'avais quand même moi du coup accès à la lecture en français de mon côté, j'ai quand même essayé le plus possible de m'intéresser à des livres qui étaient vraiment écrits en néerlandais, bien qu'il n'y en ait pas donc tant que ça.
Il y a des autrices ou des auteurs dont vous voudriez, donc vous avez cité Bob et Bobette, c'est ça ?
Alors,
c'est une
bande dessinée. Ça, c'est une bande dessinée super, super célèbre, mais même en Belgique francophone aussi, mais je pense qu'en France, ça l'est un peu moins. C'est une bande dessinée à succès énorme, et c'est né en 1946, donc après-guerre, sous la plume de Billy Van Der Steen, qui est un Anversois, et qui a créé ces deux petits personnages, qui sont Bob et Bobette, en néerlandais Suske en Wiske, et qui les a fait vivre plein d'aventures, parce qu'ils ont une machine à remonter le temps.
Pratique.
Et, ouais. Et donc on visite tout, toute l'histoire de la Belgique, et puis des contes européens, on va voir partout, c'est génial, c'est vraiment génial.
Est-ce que vous avez, à un moment donné, quitté ce territoire très BD-file pour vous ouvrir sur un peu plus de romans, éventuellement de la poésie, ou c'est resté votre territoire de prédilection ?
Alors, en poésie, vraiment, là, j'y connais rien du tout, et je pense que c'est le genre de discipline où il faudrait avoir peut-être quelqu'un qui puisse nous...
inviter
nous y introduire, ouais. C'est vraiment difficile, je trouve. Enfin, moi, j'y arrive pas toute seule, en tout cas. Enfin, j'aime bien Paul Van Ostaille quand même en néerlandais, mais bon, c'est un classique, voilà, c'est un truc qu'on apprend à l'école. Mais non, en fait, j'ai toujours lu des romans aussi, en fait.
C'était toujours parallèle.
Parallèle. Bah, en France, coup, j'ai appris à lire en français à côté, oui. Et donc, par exemple, quand j'étais jeune ado, c'était comme beaucoup de jeunes filles, Jane Austen, qui était vraiment, quand j'avais 13-14 ans, c'était. Je les ai lues en boucle et en boucle. Malheureusement, j'ai dû les lire en néerlandais aussi. Puisque ma bibliothèque n'avait que du néerlandais.
Et vous dites malheureusement parce que vous n'étiez pas satisfaite de la traduction.
C'était ouais. Terrible. Et en plus, on ne comprenait rien. Enfin, non, ça c'était... En français, c'est mieux, oui. Jane Austen. Et puis, à l'adolescence, un livre qui m'a beaucoup marquée aussi, c'était... D'un coup, là, c'est Le Loup des Steppes de Hermann Hesse. Ça m'a... Et en français. ça m'a... Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a énormément... ça m'a bouleversée. Ouais, ça a changé plein de choses dans ma façon de voir les choses à l'époque... En tant qu'adolescente, je pense que c'est une bonne lecture.
Ouais. On va y venir tout à l'heure, mais dans votre bande dessinée, dans celle dont on va parler tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose qui est très fort de la pensée de l'enfance. Au-delà même des personnages, il y a quelque chose de l'enfance ou de l'adolescence ou de l'enfance à protéger qui court sous tout le livre, quoi, d'une manière extrêmement subtile, au-delà même du seul sujet des mineurs non accompagnés. Est-ce qu'il y a dans vos lectures, que ce soit en bande dessinée ou en roman, un personnage d'enfant ou d'adolescent qui aurait été comme ça marquant, dont vous vous souviendriez aujourd'hui ? Donc il y a ce petit bonhomme-là qui vit sa vie dans son appartement-là.
Pluck van de Petteflet. Je ne sais pas si...
Vous pouvez le redire ?
Pluck van de Petteflet. Ça ne veut rien dire, plus ou moins. Mais il s'appelle Pluck. Non, il n'y a pas un enfant en particulier qui m'a marquée, mais j'ai toujours adoré, quand j'étais petite justement, les histoires d'enfants qui étaient libres et qui n'étaient pas sous l'autorité des adultes, qui n'étaient pas dominés par des adultes. Et donc, voilà pourquoi je parle par exemple de Pluck ou Bob et Bobette, qui sont des enfants qui font ce qu'ils veulent. Philémon, il fait ce qu'il veut. Voilà, ce sont des personnages libres et c'est à ça que j'aspirais énormément quand j'étais petite fille. Donc voilà.
Est-ce que vous diriez que c'est encore quelque chose que vous cherchez dans vos lectures, quelle que soit la forme, c'est de la liberté, un sentiment de liberté ?
Oui, oui, c'est quelque chose de très important dans la vie, oui. Oui.
Et dans vos lectures aussi ?
Oui.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut trouver comme rapport à la liberté en ouvrant un livre ou une bande dessinée ?
Alors déjà, si je parle purement de la bande dessinée, ne serait-ce qu'au niveau de la pratique, c'est parce que je fais ce que je veux. C'est vraiment la pratique artistique, ou alors peut-être ouais, l'écriture de roman, ça pourrait le faire aussi, mais j'ai pas besoin d'argent pour le créer. Je dis pas que j'ai pas besoin d'argent pour vivre pendant que je le crée, mais pour créer la bande dessinée, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai juste une feuille de brouillon et un stylo bille.
Et c'est parti.
Et je raconte ce que je veux. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi. Donc oui, c'est très important à ce niveau-là, oui.
On parle aussi de la BDTech parentale et donc aussi d'un rapport à l'image très fort, très présent dès la plus petite enfance. Et on y viendra aussi sur votre propre travail, mais dans un premier temps, restons sur le travail des autres. Il y a quelque chose dans votre bande dessinée, Clara Lodwick, qui peut zoomer très près de sensations, d'odeurs, de sons, de matière. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez rencontré chez des autrices et des auteurs qui vous auraient plu et marqué, et dans ce cas, chez qui ?
Oui, oui. Mais je pense que le fait que ça m'intéresse au départ, c'est vraiment parce que c'est quelque chose que... C'est une façon dont j'ai l'impression que je vois le monde aussi. Mais, et donc, grâce à ça, il y a des autoristes qui m'ont intéressée, en effet. Et alors là...
Mais ça part plus de votre propre rapport au monde.
C'est parce que moi, j'aime ça, que je vais vers ce genre de lecture, oui. Déjà, il y a une autrice qui est vraiment mon autrice préférée du monde entier, c'est Violette Leduc, qui... Elle, c'est la championne, quoi. En fait, tout ce qu'elle vit, elle nous le transmet que à travers son vécu à elle. Il y a rien qui est objectif dans son travail. Tout est subjectif. Je saurais même pas le décrire parce qu'en réalité, c'est trop complexe. C'est trop Violette Leduc elle-même qui a cette façon à elle de voir les choses. Et c'est formidable. Et là aussi, le rapport à la liberté, c'est la liberté d'avoir accès à l'inconscient, à la façon de penser d'autres gens que moi. Je trouve ça formidable.
Et donc, peut-être le point commun qu'on peut faire avec l'écriture de Violette Leduc, c'est la sensorialité aussi, et
oui,
pas
exactement.
Que uniquement du côté de la sexualité, aussi dans le rapport à la lumière,
exactement.
Aux matières, à ce qu'elle fait voir ou fait dire à ses personnages. C'est peut-être à cet endroit-là que ça peut toucher un point commun avec votre travail.
C'est le sensible, quoi. C'est vraiment ça. Violette Leduc, elle est vraiment super forte pour ça. Et si je pense à d'autres choses aussi, j'avais lu au tout début de Mohib aussi... Les raisins de la colère de Steinbeck, et quand même un chapitre sur deux il se concentre uniquement sur des petits détails et des petites sensations, enfin c'est des grandes sensations, mais il fait des descriptions très fortes. Il y a Zola aussi que j'adore et que je relis presque que pour ses descriptions parce que j'adore me plonger dans un univers genre Le Bonheur des Dames, là-dedans il y a que ça, Le Ventre de Paris, que ça. Faulkner aussi, les émotions, enfin là aussi le sens, c'est que des auteurs vraiment sensoriels. Et puis il y a des auteurs japonais aussi. Akutagawa, quand il a écrit une nouvelle qui s'appelle Rashomon, et ça commence, on arrive sous une porte et il décrit un vieil enduit rouge qui est en train de se retirer et il y a un cri que je sais pas pourquoi j'imagine vert qui se pose dessus. Voilà, ça c'est parfait, c'est ça que j'aime, oui.
Est-ce qu'il y a des bandes... Est-ce que vous avez un lieu de travail dédié ? Comme un atelier, par exemple ?
En fait, je vis... Là, les 4 dernières années, j'ai vécu dans une camionnette. Donc, je travaille dans ma camionnette.
Est-ce qu'il y a des livres dans cette camionnette ?
Et ça, c'est difficile.
Ah oui, parce que c'est pas très grand.
Non, c'est très compliqué. Il a fallu faire des grands choix. Et donc, après, j'avoue que j'envoie mes livres par la poste à mes parents, parfois. Pour qu'ils les mettent dans leur grenier.
Ah,
pour qu'ils les gardent.
Eux, ils font garde-meubles, garde-bibliothèque.
Garde-livres, oui, c'est que
mais
les livres,
quand même,
en fait.
Dans la camionnette, vous avez un petit
alors, il y a Violette Leduc, par exemple. Il y a Steinbeck.
Ouais.
il y a aussi Faulkner qui doit rester. Il y a Akutagawa, mais parce que j'en avais besoin. Et Ishiguro aussi, l'auteur britannique. Lui aussi, ça a été une énorme aide dans l'écriture de Mohib.
Mais donc, pas de BDTech dans la camionnette, je suppose.
Si, j'ai Bob et Bobette.
Ok.
Évidemment.
Tous ceux que vous avez évoqués là ont une petite place dans la camionnette.
Bah oui, sinon j'en parlerai pas. Oui, c'est
les essentiels.
Mais j'ai lu d'autres trucs aussi, mais oui. Il y a aussi la BD Urbanus en Flandre que j'ai dans ma camionnette. Quoi d'autre? Oui, c'est ça, c'est un peu. Et après, des livres que j'ai de passage, quoi.
Et ceux-là, ils viennent
et ils repartent après, voilà.
C'est comme ça.
Ça, c'est les passages, voilà.
On va parler de votre livre à vous, de votre bande dessinée Mohib sur le parking, paru aux éditions Dupuis. Juste après cette chanson, Dariana Sayed, Bash Kaboul, chanteuse, compositrice, personnalité de télévision, activiste aussi. C'est une figure de proue de la lutte pour le droit des femmes. Ici, elle chante l'amour, je ne sais pas si c'est en pashtou ou en dari, mais peut-être vous allez nous dire en dari.
Oui, dari.
Thank you.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un parking comme un biotope aujourd'hui dans votre Book Club. Un banc, des voitures évidemment, des mésanges dans les flaques, des pissenlits dans le béton, des corbeaux et des biches la nuit, un couteau dissimulé, un ballon de foot, des lampadaires, des rats, des mots, des mégots, le bruit de la pluie descendant aux égouts et des vivants. Des vivants qui veulent être vivants. Des jeunes gens que la loi belge désigne comme mineurs non accompagnés, parmi lesquels Mohib. Dans votre bande dessinée, Clara Lodewijk, l'environnement se confond presque avec la psyché du jeune homme, agité évidemment de mille émotions. Il attend ses papiers, oui, mais son existence ne se résume pas du tout à ce seul fait administratif qui recouvre souvent, dans le discours médiatique, toute la singularité des êtres. D'ailleurs, c'est de ce discours médiatique que vous partez, puisque la première bande-son de ce parking, c'est un flash radio, je cite, « Jingle, merci Xavier, bonjour à tous, nous commençons avec ce chiffre alarmant, plus de 3500 mineurs non accompagnés arrivent chaque année en Belgique, les places d'accueil manquent et nombre d'entre eux se retrouvent à la rue, discrets, pour ne pas dire invisibles, qui sont ces enfants ?» Comme si vous vouliez, Clara Lodewijk, commencer par ce discours généralisant, dépersonnalisant, anonyme par définition, pour nous emmener vers tout l'inverse, la plus grande singularité des êtres.
Oui, alors cette introduction, en fait, je l'ai fait tout à la fin, parce que justement, je me suis rendu compte que c'était... Il n'y avait pas beaucoup d'explications dans la bande dessinée, il y a très peu d'indications médiatiques, politiques, administratives, et peut-être que ça n'allait même pas être clair, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout au courant de ce genre de situation. Et donc,
sur la situation des jeunes gens que vous dépeignez ensuite, c'est ça ?
C'est ça, ouais. En fait, il y a des gens qui ne savent pas que ça existe. Par exemple, des jeunes personnes qui n'ont pas de parents et qui sont encore mineurs, qui se retrouvent ici. Et donc, voilà, ça a été une façon pour moi un peu de me dire, ok, je le pose là, comme ça, on sait un peu que ça va être ça le sujet. Enfin, c'est même pas le sujet de l'album pour moi, mais c'est un sujet qui est abordé. Et comme ça, après, je m'en lave les mains et je passe à autre chose. Quoi. Je parle de Mohib et de son expérience à lui et pas spécialement. Ouais.
Mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que, et c'est d'autant plus intéressant que vous l'ayez placé à la fin de votre travail, c'est que ça, c'est le discours de surface. Ce sont les mots qui sont dans l'espace public, parfois même pas entendus, vous le dites, Clara Lodewijk. Et puis ensuite, en effet, on va passer à toute autre chose, c'est-à-dire, c'est quoi un corps sur un banc quand la nuit tombe? C'est quoi un camarade qui tombe amoureux et qui vient pas au rendez-vous? C'est quoi des passes de football? C'est quoi trois petites mésanges qui viennent se désaltérer dans une flaque d'eau, vraiment comme si vous nous disiez, mais c'est là, la vie, elle est là en fait, elle est à tous ces endroits-là.
Mais bien évidemment, et c'est, je pense que c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'invisibiliser la vie et c'est d'oublier la vie, c'est d'annihiler les gens, parce que sinon, comment est-ce qu'on pourrait expliquer que les mesures qui sont prises aujourd'hui, et notamment par le parc migratoire qui dans un an va commencer à être mis en œuvre, comment est-ce qu'on pourrait prendre ce genre de décision si on acceptait qu'en effet ce sont des gens comme nous? Donc il faut oublier, il faut invisibiliser, sinon c'est insupportable, sinon on peut pas vivre avec l'idée que des jeunes comme nos propres enfants puissent se retrouver comme ça à la rue. Et je parle pas seulement des jeunes, là j'ai pris un jeune, c'est vrai que c'est peut-être plus facile, mais j'ai le même discours pour les adultes, hein. je fais pas vraiment la différence. Donc oui, c'est le but.
Il y a une forme de déshumanisation qui est totalement contrée, presque... Oui, retourner avec cette bande dessinée, c'est au plus près de chacun des humains que vous semblez vouloir aller.
Oui, ça je ne sais pas si je le fais tout à fait exprès, c'est juste que quand je fais de la bande dessinée, pour l'instant en tout cas, j'en ai fait que deux, mais elles sont un peu longues, donc j'ai eu le temps de parler de plusieurs personnages. C'est la façon naturelle que j'ai d'aborder mes personnages aussi, de toute façon c'est d'être près d'elles et eux, et c'est d'aller voir leur singularité. Donc Mohib, comme les autres, a ce traitement. Maintenant, évidemment, il a cette situation administrative qui fait que ça reste un sujet dans l'album. Mmh. Et justement, c'est pas si évident de jongler un peu entre les deux, de pas prendre sa place non plus. Il y a des choses dans son parcours que je ne peux pas imaginer. Donc, ça a été plus difficile pour moi de m'approcher de lui que pour un autre personnage, puisque quand même, mon expérience de vie est très différente, quoi.
J'ai parlé du parking comme d'un biotope, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. J'ai eu presque l'impression, peut-être aussi parce que on va y venir, vous faites des zooms sur d'autres vivants que les humains, mais j'ai vraiment eu l'impression que vous preniez ça comme un tout, comme un territoire, presque un laboratoire d'observation, Clara Ludwig.
Oui, mais j'ai adoré travailler sur l'idée d'un parking. Donc, comme je disais, moi, je vis, enfin, là, les 4 dernières années, je vivais dans une camionnette, donc je vis sur des parkings, à l'époque, tout le temps, maintenant, c'est un petit peu changé. Mais donc, je vivais tout le temps, tous les jours sur des parkings, et donc, je connais bien ces endroits, et en même temps, je les redécouvrais à chaque fois. Ce sont des lieux très particuliers dans lesquels, plein de choses peuvent s'exprimer, et socialement aussi, parce que c'est des zones de non-droit, surtout quand c'est des terrains vagues, un peu, comme c'est le cas de Mohib, où c'est une ancienne carrière, je pense. Et les gens s'en emparent et font ce qu'ils veulent avec, quoi. Et donc, on peut rencontrer plein de gens différents, des gens qui promènent leurs chiens, des gens qui viennent pour faire la randonnée. Puis, bah, il y a des gens qui, le soir, vont venir traîner là et faire des règlements de compte. On a un peu de tout. Et puis, il y a des gens paumés qui attendent que le temps passe et des gens, du coup, comme Mohib, qui n'ont pas d'autre endroit où aller. Et en fait, sur un parking, on peut pas être chassé. Mmh. C'est pas une propriété privée. Donc, en fait, Mohib, il peut aller que là. Ensuite, le parking, c'est un endroit qui a l'air comme ça pas vivant, vu que c'est des voitures, c'est bétonné, mais il y a tellement de belles choses à voir, même dans des zones où il n'y a plus grand-chose. Et je pense qu'on va devoir s'y habituer, puisqu'on est quand même de moins en moins dans la nature, donc on a intérêt à observer et à voir les petites choses qui nous restent.
Ce qui fait qu'il y a des cases où, oui, vous semblez presque avoir à la fois un microscope et une caméra zoom pour aller voir comment la puissance d'une petite plante de pissenlit ou d'une autre petite plante peut fissurer du bitume pour aller chercher de la lumière et croître. Comment est-ce qu'un escargot se déplace ou, je l'ai dit tout à l'heure, des rats ou des mésanges. Il y a vraiment quelque chose de... presque de la biologiste, d'une certaine manière, dans cette façon de dessiner.
Oui, en fait, j'ai fait énormément de croquis d'observations sur les parkings. Et alors, c'est rigolo, mais il y a une photo comme ça que mon compagnon avait prise où on me voit accroupie complètement par terre en train de prendre des photos et faire des croquis, mais couché par terre sur du béton. Enfin, du goudron plutôt, pour le coup, puisque c'est souvent
du goudron.
Hein, oui. Non, mais moi aussi, j'ai dit béton, mais c'est vrai que c'est quand même du goudron la plupart du temps. Et en fait, j'ai passé des heures quoi à regarder les grains de goudron. On va y arriver. Les grains de goudron et de voir comment, finalement, ça reste organique, puisque c'est du pétrole et que le pétrole vient de la terre et qu'il n'y avait rien qui n'était pas organique sur ce parking. Et c'est très beau, enfin, c'est quelque chose qui, moi, m'émeut, je ne sais pas pourquoi, hein, mais ça m'émeut. Et le coup de l'escargot, par exemple, ben, quand la peinture est posée sur du goudron, ce n'est pas lisse, il y a une couche de peinture, il y a un millimètre ou deux de peinture. Je l'ai dessiné, ça, j'ai dessiné, et je voyais que quand les escargots passaient dessus, pour eux, ça faisait une différence, parce qu'ils sont plus petits que nous, et donc ils remarquent cette peinture. Et voilà, c'est plein de petites choses comme ça, je ne sais pas pourquoi, ça a commencé à me passionner. Et ça avait beaucoup de sens pour Mohib, puisque lui, il passe son temps à regarder par terre, à regarder le parking. Donc, il fallait, je pouvais lui donner ce regard-là, quoi.
On va écouter la voix de Louis Hermès, auditeur du Book Club. Il a lu cette bande dessinée et votre précédente. Clara Ludwig, il vous adresse une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Clara Ludwig. J'ai beaucoup aimé, du coup, alors évidemment le scénario qui est très politique, mais aussi la manière dont vous avez de traiter le sujet. Vraiment avec beaucoup de détails, sans compromis, sans être non plus trop pessimiste. Je trouve ça vraiment très chouette. J'aime aussi beaucoup toute la galerie de personnages qui sont finalement et à la fois importants pour le sujet, mais aussi pour notre personnage principal, Mohib. Voilà, je trouvais ça vraiment super. J'avais une petite question, du coup, en rapport avec tout ça. Je me demandais, est-ce que tous ces personnages, du coup, vous en êtes inspirés de personnes qui existent vraiment, ou alors c'est purement lié à votre imagination? Voilà. C'était ma question. Je vous remercie beaucoup, Clara.
Merci à vous, Louis Hermès, pour cette lecture et pour cette question, Clara Ludwig.
Tous les personnages sont fictionnels. À vrai dire, il y a un personnage qui ne l'est pas. C'est un des figurants du parking, mais du coup, je ne vais pas dévoiler qui c'est. Mais il m'a autorisé à le dessiner. C'est quelqu'un que j'ai rencontré justement quand j'étais dans ma camionnette. Mais sinon, oui, tous les personnages sont des personnages de fiction. Évidemment que je m'inspire de personnes que je connais ou que j'ai croisées ou que j'ai entendu parler à un moment dans un bar ou... mais je crois vraiment, et là je parle vraiment pour moi, hein, parce que je lis aussi des trucs documentaires et tout, mais moi j'aime le pouvoir de la fiction et donc digérer les histoires. Moi je trouve que c'est vraiment important de prendre le temps de digérer des choses qu'on voit. Et du coup aussi, je sais pas si ça se dit, mais digérer les gens qu'on rencontre et de les mélanger avec d'autres, ça devient vraiment dégueulasse.
Très organique en tout cas.
Voilà, très organique.
Il n'y aura rien de pas organique sur ce plateau de radio.
Et voilà, et les ressortir d'une façon plus mature, plus... J'ai besoin d'avoir du recul sur ce que je raconte, quoi. Je n'ai pas envie d'être complètement victime de mes sujets, quoi, quand je les raconte.
Alors justement, parlons de ces sujets. Donc il y a Mohib, ce jeune homme qui est arrivé d'Afghanistan. Ça, c'est ce qu'on sait et on ne va pas savoir grand chose en fait sur son parcours de vie. Peut-être en rapport avec ce que vous disiez tout à l'heure, Clara Ludwig, c'est-à-dire des choses dont vous ne pouvez pas finalement vous approcher parce que difficile à se figurer. En revanche, il y a des pointes comme ça thématiques d'une mère qu'il a laissée seule, qu'on croit même morte pendant tout un temps, quelques amis, des camarades, un lien avec une association, une souffrance psychique, mais c'est pareil, de ça on ne sait pas trop de détails, et une attente administrative, et puis la relation avec des femmes dans l'entourage qui sont désignées par Madame Sonia, Madeleine Tête, dont on comprend qu'elle se relaie dans l'hébergement de ces jeunes gens. Je vais lire un passage de dialogue entre une maman qui s'appelle Sandrine, qui est la maman d'un jeune garçon qui s'appelle Hugo, qui est venu jouer au foot avec Mohib, où il y a une sorte de bref rapprochement, et il a fugué. Mohib ? Mohib, c'est bien vous ? Je suis la maman d'Hugo. Bonjour madame, je suis contente de vous rencontrer. Ah, vous parlez français ? Oui. Heureusement, je suis désolée de vous déranger, mais voyez-vous, vous connaissez Hugo, n'est-ce pas ? Oui, il est très gentil, un bon ami, mais maintenant ça fait 3 jours qu'il n'est pas venu. Oui, c'est la raison pour laquelle je souhaite vous parler. Je veux vous aider. Hugo vous aurait-il dit qu'il partait et si oui, où il allait ? Ça non, désolé. Auriez-vous remarqué quelque chose de particulier, de bizarre dans son comportement ? Non. Je vais faire le tour de ses connaissances. Pourriez-vous écrire une liste comprenant toutes les connaissances qu'il avait, selon vous ? Je suis très inquiète. Contrairement aux policiers qui sont complètement inactifs. Voici mon numéro. Vous êtes souvent ici, n'est-ce pas ? Oui, tout le temps. Je n'ai pas d'autre endroit pour aller. Bah oui. Bon. Au revoir. À bientôt, merci. Et désolée pour votre situation. Enfin, pas de problème. J'ai pas tout compris. Au revoir. Bonne journée. On fait ce qu'on peut quand on lit de la bande dessinée à la radio. Clara Ludwig, c'est un extrait de Mohib sur le parking paru aux éditions Dupuis, Les Ondes Marcinelles. Ça permet de dire à quel point il y a tout plein de passages qui sont dialogués, tout plein de cases qui sont muettes, et les deux mouvements participent profondément à l'avancée des histoires que vous racontez. Mais zoomons un peu sur cette relation-là entre Mohib et la maman de Hugo. Qu'est-ce qu'elle vous permet de raconter de plus large sur des différentes relations de soins que vous décrivez ?
Oui, mais c'est drôle parce que justement, d'un point de vue médiatique et politique, on se pose même plus la question de s'il faut accueillir. Avant, on se posait la question de comment accueillir et accueillir bien ou pas. On n'est plus là du tout. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était justement comment être sûr que des enfants sont en sécurité, en fait, ici. Parce que c'est pas parce qu'ils sont arrivés en Europe qu'ils sont en sécurité. Là, je parle de Mohib qui, quelque part, arrive à trouver une certaine stabilité. C'est-à-dire que tant qu'il bouge plus trop, ça va pas empirer. Mmh. Il est sur ce parking, il est pas à Bruxelles où il risque de tomber dans des trucs, des réseaux, enfin voilà. Mais En réalité, il n'est pas tant en sécurité que ça, parce qu'il est accueilli certes par des réseaux, mais en fait, on ne sait pas qui sont dans ces réseaux. Et ce n'est pas parce que ce sont des femmes de 40, 50 ans qui ont elles-mêmes des enfants qu'elles sont pas tellement plus safe. Et donc, moi, quand j'étais jeune, que j'étais adolescente à 17 ans, je voyais ça, je voyais que mes copains, ils allaient parfois dormir chez des dames âgées. Et ça me mettait très mal à l'aise, très très mal à l'aise. Et à l'époque, je me disais, c'est parce que je suis jeune, je comprends pas et tout. Mais maintenant que j'ai 28 ans, je pourrais être mère, je comprends encore moins comment c'est possible qu'on envoie des gens chez des gens inconnus.
Et en même temps, c'est aussi des solutions d'urgence parfois.
Exactement. Mmh. Et en fait, c'est ça qui est triste, c'est qu'on est obligé de faire ça, mais on ne sait pas si les gens sont vraiment bienveillants derrière. Je dis pas qu'il va tomber dans un réseau de prostitution avec cette dame, mais en fait, si quelqu'un, par exemple, souhaite accueillir et que c'est pour des raisons, mettons, une femme a perdu son fils et elle est en deuil et elle commence à projeter toutes ses émotions sur un jeune garçon, en fait, elle va rien lui apporter de positif, quoi. Et ce garçon va se retrouver avec il va se retrouver avec un lit, mais il va se retrouver aussi avec une charge émotionnelle en plus de ce qu'il a déjà à la base, quoi.
Oui, c'est sûr. Après, il me semble que ce que vous montrez, c'est la complexité de tous ces liens-là. C'est-à-dire que, en effet, peut-être c'est bizarre, peut-être c'est pas bien placé, peut-être c'est pas au bon endroit, peut-être même parfois c'est dangereux. Mais par exemple, ce Mohib, à un moment donné, il va serrer cette femme dans ses bras et votre dessin va évoquer, Clara Ludwig, la manière dont lui-même remplace le corps de cette femme belge qui a rien à voir dans l'histoire par l'idée de la mère qui lui manque. Et presque là aussi, c'est pas bien placé, n'empêche que dans cette étreinte, il récupère quelque chose pour lui sur le moment-là. Et vous montrez bien que, en fait, c'est imparfait. Et parfois même, c'est dangereux. Mais c'est aussi des liens qui se tissent par le fait même que ces jeunes gens arrivent en Europe.
Oui. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est très compliqué, c'est très douloureux. Mmh. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que je trouve qu'il y a plein de choses à dire à travers tout ça, et qu'il y a plein de petites choses à aller décortiquer à gauche, à droite. Et rien n'est simple. Et on voudrait que ce soit tellement simple et catégoriser les gens et les situations. Et en effet, j'ai peut-être été un peu rapide dans mon explication, mais...
En tout cas, ça laisse dire que les élans militants ou solidaires ne sont pas tout blancs. Et la répartition, on va dire, des forces, vous les regardez, quoi, avec minutie. Moi, je pense que ce qui est aussi intéressant de dire, c'est que ces jeunes gens-là, vous ne les réduisez pas que à cette condition politique. Par exemple, il y a de l'amitié, il y a du désir de foot, il y a des histoires d'amour, il y a des pensées. Enfin, vous en faites des jeunes gens.
Oui, et par rapport au réseau militant et tout, parce que je pense que c'est important de faire de l'autocritique si on veut faire des choses de qualité. Sinon, encore une fois, moi, je suis pas de « est-ce qu'il faut accueillir ou pas ?» Je veux vraiment des trucs de qualité, je veux un accueil de qualité, je veux qu'on respecte les gens jusqu'au bout, je veux qu'on traite les gens correctement. Donc, c'est pour ça que je fais une sorte de micro-critique ou mise en garde, quelque part. Mais parce que c'est ce que je ressens, c'est ma crainte à moi, hein, que j'exprime. Mais évidemment que, heureusement, qu'il y a ce réseau-là, parce qu'il n'y a qu'eux, en fait, pour le moment.
Sur le fait de... parenthèse sur laquelle vous vouliez insister, je comprends bien. Mais sur le fait de bien nourrir la vie de ces personnages-là, de choses qui traversent des jeunes gens de 16, 17, 15 ans, comme tous les autres jeunes gens. C'est ça qu'on entend aussi, Clara Ludwig.
Exactement. Mohib, là, sur le parking, il attend. Et donc, c'est un moment compliqué pour lui, parce que c'est... encore une fois, on ne sait rien sur son trajet, sur ce qu'il a vécu, mais l'adrénaline retombe. Et maintenant, il faut attendre. Et donc, d'un côté, il y a toute la douleur psychique, le trauma qui peut s'exprimer à ce moment-là, mais il y a aussi la vie d'adolescent qui peut quelque part commencer. Bon, pour lui, c'est quand même difficile d'avoir une vie d'adolescent, mais l'air de rien, oui, il va avoir des amitiés. Et c'est une amitié dans laquelle il y a des rapports compliqués, pas seulement parce qu'il n'a pas de papier et qu'il y en a un qui a des papiers,
mais parce qu'ils ont cet âge-là.
Parce qu'ils ont cet âge-là, qu'il y a des problèmes relationnels entre les jeunes, qu'il faut se créer, il faut grandir, il faut créer son identité propre, hein, pas celle d'un migrant. Il y a des histoires d'amour, évidemment. Et il a envie de vivre, quoi. Quand on est adolescent comme ça, il y a des pulsions de vie, des pulsions dans tous les sens qui donnent envie de vivre.
Il y a quelque chose qui sourd tout au long de la BD et qui excède la condition de ces adolescents et leurs conditions politiques, c'est une inquiétude, une vigilance à l'égard de l'enfance, avec un grand E. Et je commençais cette émission en disant « un enfant est un enfant » aujourd'hui dans le book club, et ça devrait être quelque chose de principiel, mais malheureusement on sait que ça ne l'est pas. Et on sent que votre narration est inquiète, on sent que tous les gestes qui sont faits autour d'un enfant... que ce soit un bébé qui apprend à marcher, que ce soit une petite fille qui change son maillot de bain dans une voiture. Tous ces gestes-là, vous les regardez en vous demandant de quel côté ça va basculer.
Mmh. Ouais, je pense que je suis, je dois dire, par rapport à, maintenant que je vois un peu la fin de l'album, je pense que j'ai juste de la colère quoi, envers les adultes irresponsables. C'est vraiment une grosse colère chez moi, mais du coup, j'essaie de l'exprimer de façon plus calme et tenue pour que ce soit entendable.
Mais pour vous, il y a un continuum politique entre se demander qui sont ces enfants des mineurs non accompagnés et attention aux violences sexuelles et physiques faites sur les enfants en bas âge ou pas en bas âge, attention à la toxicité parentale ou relationnelle. C'est pareil d'une certaine manière.
Ben en fait, c'est des questions de pouvoir. Qui a le pouvoir dans l'histoire à partir du moment où on ne peut pas être représenté, on ne peut pas porter plainte. Les enfants ne peuvent pas porter plainte sans un adulte ou un tuteur. Ils peuvent pas. Donc là, Mohib ou d'autres personnes qui n'auraient pas de papier ne peuvent pas porter plainte non plus. C'est des choses. Voilà, c'est des questions de pouvoir. Et moi, je n'aime pas les rapports de pouvoir. Et donc oui, mon inquiétude, elle est. C'est ça que j'essaye d'expliquer ou d'exprimer ou de raconter.
Vous l'avez vu arriver rapidement, cette grande thématique, peut-être fil rouge et moins clairement affichée, c'est-à-dire que ça excède très largement l'histoire de Mohib.
Oui, bah, malgré nous. Hein. Je pense que malgré moi, quoi. Mm. C'est quelque chose qui est venu tout seul. Moi, j'avais l'impression de parler plus de la maternité, justement, en racontant cette histoire. Parce
Absolument.
Que ouais. J'ai été obligée de me mettre à la place de Sandrine très fort.
La maman de Hugo, donc, ouais.
Exactement, qui est donc la maman qui va se rapprocher d'Hugo et comme... De Mohib. Et Mohib, lui, ben, sa maman lui manque terriblement et n'arrive pas à lui parler. Donc moi j'avais l'impression d'être allée sur la maternité vraiment et c'était compliqué pour moi parce que j'ai pas d'enfant et j'essayais de comprendre comment on pouvait en tant qu'adulte voir les enfants comment et ses propres enfants et les enfants des autres, est-ce qu'on a autant envie de protéger l'enfant de son voisin que le sien, mais c'est des questions ça a l'air bête comme ça mais je me suis vraiment posée
hyper importante
et qui m'ont beaucoup émue en écrivant cette BD, mais c'est vrai que finalement maintenant qu'on en parle, je me rends bien compte que je suis quand même restée du côté de l'enfant. Voilà, et que c'est quand même les enfants qui s'expriment plus que les mères ici.
On va écouter la voix d'un auteur de bande dessinée qui s'appelle Jean-Claude Forest. Il parle de l'usage de la métaphore graphique, chose que vous utilisez aussi, notamment pour chercher des points de contact d'expression d'émotion.
Si on veut faire passer plus qu'une émotion, par exemple, si on a été la proie d'un bouleversement émotionnel, c'est pas en le racontant par le menu qu'on arrivera à le transmettre aux autres, qui peut-être le recevront de manière trouveront que c'est plat ou bien que c'est hystérique, que ça vaut pas une telle affaire. Il me semble que tout doit passer par l'intermédiaire de la métaphore. C'est-à-dire qu'on doit arriver à trouver, en utilisant le code de transmission qui nous lie avec le lecteur, enfin avec l'autre, arriver à trouver des formules qui le touchent profondément, qui arrivent à toucher en lui un point sensible, comme un air malade, donc qui le concerne, plutôt que de raconter sa propre histoire ou la manière dont on voit l'histoire des autres.
Chercher le point sensible, le point d'expression sensible, c'est une archive de 1995, Jean-Claude Forest. Est-ce que ça vous parle? Et si oui, comment le travaillez-vous d'un point de vue graphique? On a assez peu jusque-là parlé du dessin, de vos scènes, de vos couleurs. Clara Ludwig.
Je ne sais pas trop comment rebondir.
Par où commencer?
Oui, par où commencer. Donc comment, par exemple, comment on verrait...
Par exemple, nous avons vu une façon pour vous d'exprimer l'intériorité du personnage de
oui,
Mohib
d'accord.
En allant chercher dans des éléments de météo, dans oui. des éléments de couleur, d'ambiance, d'accord. Et qu'il y avait une sorte d'aller-retour entre tout ça.
Oui, tout à fait. Alors, du coup, ce qui était compliqué pour moi à travailler, c'était, encore une fois, Mohib, j'ai essayé de vraiment rester à l'extérieur de lui la plupart du temps. Donc, on est dans l'observation, on le regarde vivre les choses. Mais il fallait quand même bien qu'on ait un tout petit peu un aspect de son intériorité. Donc au début, ça passait surtout par des... on voit des choses sur le parking où, bah, du coup, c'est plus mon expression de Mohib que Mohib tout court, mais on va zoomer sur des éléments, sur des petites fourmis qui trimballent des bouts de pain ou sur voilà, le pissenlit qui sort du goudron. C'est un peu classique, mais bon, comme on est sur un parking, c'est quand même aussi évident. Mais à un moment, voilà, je m'étais mis ça comme quelque part comme une sorte de cadran. Enfin, cadran, c'est pas un bon mot. Comme une sorte de règle à suivre. On va toujours rester à l'extérieur et on va jamais s'approcher de lui. Parce que je me le permettais pas, quelque part. Et à un moment, j'ai compris que ça n'allait pas le faire, quoi. Il fallait quand même lui offrir... J'avais envie de lui offrir beaucoup de beauté, beaucoup de grandeur et de vie. Et j'avais besoin que ce soit exprimé, du coup, pour que les lectrices puissent le comprendre aussi. Et donc, à un moment, je me suis dit, il va quand même falloir quelques petites échappées un peu oniriques ou alors pousser un peu plus le bouchon aussi au niveau, justement, des métaphores. Et donc, il y a un moment où... je dessine, et c'est d'après des... Il fait une sorte de cauchemar et on voit des têtes. Et ça, c'est des têtes qui sont en fait des relevés des plaquettes des grottes de la Marche à Lussac-les-Châteaux, dans la Vienne, qui sont des plaquettes qui datent de 17 000 avant notre ère et qui sont magdaléniennes. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, mais ça, il fallait absolument qu'ils reçoivent ça, quoi. À un autre moment, il grandit. Il grandit énormément. Et donc ça, c'est des moments où j'ai cassé ma règle et j'avais vraiment envie qu'il ait droit à cette grandeur, à cette profondeur humaine et à quelque chose de plus aussi que juste ce parking, quoi.
Ouais. Et alors là, bah, pour l'exprimer explicitement à nos auditeurs et auditrices, il grandit vraiment.
Oui.
Il prend énormément de place sur la page. D'un seul coup, son corps et peut-être la grandeur à laquelle il aspire, elle est réelle, elle est graphique, quoi.
Oui. Oui, bah je pense que là c'était aussi, enfin, c'est que je sentais qu'il évoluait vers ça et que c'est ce que lui ressentait, mais c'est aussi quelque chose qu'en tant qu'autrice j'avais vraiment envie d'offrir à mon personnage, que j'avais envie qu'il soit grand et j'avais envie qu'il prenne la place. Pendant tout l'album, il est tout petit sur son banc, il a pas le droit de bouger, quoi. Donc il y a un moment quand même où j'avais besoin qu'il prenne la place, quoi, qu'il sorte de là.
Et ça, dans le travail, comment ça vient, Clara Ludwig? Tout à l'heure, vous avez dit en début de cet entretien combien le temps était important pour digérer les histoires, digérer y compris les gens qu'on rencontre, les choses qu'on apprend. Est-ce que ça vient sous votre trait? Est-ce que vous cherchez des choses? Comment ça se passe? Par exemple, ce terrain métaphorique, est-ce que ça vient au cours de l'élaboration de la bande dessinée ou est-ce que c'est plus intentionnel que ça?
Je pense que c'est des choses qui, moi-même, vont venir dans ma vie quotidienne et que je vais après retranscrire. Par exemple, j'ai un peu un truc où je filme souvent, enfin moins maintenant, mais à un moment, je filmais compulsivement plein de choses avec une petite caméra. Et je filmais des choses, un peu toujours les mêmes choses. Et notamment, encore une fois, comme je vivais dans ma camionnette, j'aimais bien me poser près des rivières, parce que j'adore les rivières. Et je filmais les remous de l'eau, tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, c'était naturel pour moi qu'à un moment, Mohib, à un moment où il se libère un tout petit peu de certaines choses, il s'approche de l'eau et que l'eau prenne... Pour moi, c'était naturel, quoi. C'est pas intellectuel, c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est que pour moi, dans ma vie, c'était déjà quelque chose qui venait. Et donc, spontanément, je me disais, évidemment, en montrant toute cette eau qui bouge, ce mouvement, ces cascades, ces remous et tout, c'est ça qu'il ressort, c'est ça qu'il faut montrer, et c'est ça que je montre. Mais je sais pas quelque chose que j'intellectualise.
C'est une palette d'expression d'une certaine manière. Plutôt que d'écrire.
Au moment où j'ai fait cette BD.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que plutôt que d'écrire, je sais pas quoi, il a un remous émotionnel, en fait, vous allez dessiner la rivière.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment, et c'est quelque chose vraiment de naturel pour moi. C'est pas quelque chose que j'intellectualise. Oui.
Est-ce que vous voulez bien nous parler maintenant de la manière dont vous travaillez, donc dans la camionnette ou ailleurs, et comment ça se passe concrètement?
Très concrètement, je suis très classique. Si on parle du dessin, j'ai mon crayonné storyboard, je vais tout de suite ancrer au stylo bille noir dessus. Je suis gauchère en fait. Et donc la plume et tout, c'est trop difficile pour moi. Donc je travaille au stylo bille. Et ensuite, sur un papier séparé qui est beaucoup plus gros, je mets en couleur à la gouache mes pages. Donc vraiment, c'est à l'ancienne, quoi. Après, je remets les deux ensemble sur l'ordinateur, l'ancrage sur la couleur et puis...
J'ai pas compris. Il y a un papier qui n'a que le trait crayonné en bic.
Oui, que je numérise.
Ah, que vous numérisez. Parce que sinon, j'étais là genre, mais comment elle gouache un
papier sans trait? Oui, je me rends pas compte à quel point c'est intéressant ou pas, mais...
C'est passionnant, on adore. Vous numérisez, d'un seul coup, vous avez donc les contours de votre planche et là, vous gouachez.
Et j'imprime cette page sur un papier plus gros, mais en gris. Et là, je fais la couleur, oui. Et donc là, la surprise, c'est le moment où on réunit le trait et la couleur. Est-ce que par exemple, ce sera pas trop clair parce que quand il y a du noir, c'est beaucoup plus, les couleurs vont paraître beaucoup plus fades que avant quand il y avait que du gris quoi sur la page. Mais moi j'adore faire de la gouache, j'adore travailler à la main. Et ça prend beaucoup de temps. Mais...
Qu'est-ce qui guide ça justement, ce choix graphique?
Mon envie, purement. Ou alors, comme je disais, je suis gauchère, donc là, je... je crois que je suis pas très intellectuelle sur tout ça. Mais donc, oui, je suis gauchère, donc j'ai besoin d'un stylo bille. Quand j'ai commencé à faire de la BD, j'avais pas beaucoup d'argent, j'utilisais donc du papier d'imprimante. Et puis, bah, pour mettre la couleur, je déteste travailler sur ordinateur, donc j'avais pas tellement de choix. J'ai vu que les anciens faisaient ça à la gouache, je l'ai fait à la gouache. C'est très concret, très classique. Et ça me convient. Ouais.
J'ai ouvert devant moi une double page où il n'y a aucun mot, il n'y a que des petites cases, plus ou moins petites, puis des grandes cases avec des racines d'arbres, des traînées dans le sol, des plans sur des arbres. Qu'est-ce qui justifie ces alternances entre plus de dialogues, de nouveau beaucoup de dialogues, d'une certaine manière? Pareil, comment est-ce que vous travaillez cette rythmique du scénario?
Ça n'a pas été évident de faire le rythme justement du scénario parce que il y a un scénario évidemment, mais c'est pas un scénario classique avec un début, un milieu, une fin. Par exemple, l'histoire entre Hugo et Mohib se finit un peu brutalement, puis d'un coup il y a un autre personnage qui apparaît, puis les autres histoires elles se terminent et commencent aussi un peu. Donc c'est pas vraiment classique comme narration pure. Maintenant, du coup c'était plus tout au long de l'album, comment réussir à les silences, c'est quand même quand il est tout seul généralement, et quand il rencontre des gens, il parle.
Tout simplement. Pourquoi vous me posez tant de questions?
Mais j'explique pas bien les choses. Mais là, par exemple, vous m'avez montré une double page où effet on voit beaucoup de nature, mais c'est parce que c'est une scène vers la fin où Mohib est. Oh, je sais pas si je vais pas tout spoiler, si je commence à dire des trucs, mais. Il est ancré quoi dans ce qui l'entoure et il n'est plus seulement agressé par l'extérieur parce que comme il a un sort de problème un peu de dissociation où il supporte mal l'extérieur, les bruits, les choses, il sent les choses un peu trop fort. À ce moment-là, c'est comme si tout ça c'était lui et c'était en lui et qu'il était entouré de tout ça. Donc voilà, c'est un moment où évidemment là il y a plus de parole, là c'est que du sensoriel. Voilà.
C'est un très beau mot d'ailleurs pour parler de votre travail, le sensoriel. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, comme chaque semaine, l'heure est venue de parler littérature jeunesse à ce micro avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous nous parlez polar.
Eh oui Marie, je vous sais attentive à ce que soit représenté dans le Book Club, dans cette émission, tous les genres de littérature. Et parmi eux, la littérature que l'on dit de genre, précisément, a commencé par le polar. Quel plaisir d'entendre hier James Ellroy à votre micro. Alors aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps que j'aborde moi aussi le genre policier dans le champ spécifique de la littérature jeunesse. Je commencerai en remarquant que c'est l'une des merveilles de ce genre que de s'adresser souvent indifféremment aux lecteurs enfants et adultes. Combien d'aventures de Rouletabille, de Sherlock Holmes, Sans Atout, Arsène Lupin, Hercule Poirot ou Miss Marple ont su ravir des lecteuristes de 7 à 77 ans, comme on dit, ou du moins de 12 à 92 ans. L'ouvrage dont je vous parle aujourd'hui n'est pas un roman, cependant, mais un album illustré dont le format épouse celui d'une bande dessinée. Il est signé d'un duo d'auteurs norvégiens, le romancier Erlend Loe pour le récit, et le dessinateur Kim Hjortøy pour les illustrations. Il a paru aux éditions Lagrume l'an dernier. Il aurait pu aussi figurer dans une chronique dédiée aux meilleurs titres de l'histoire des albums jeunesse, puisqu'il s'appelle « Qui a posé ses fesses sur le fromage du roi ?»
En effet, c'est délicieux. Quelle est l'intrigue de ce livre ?
Alors, l'album s'ouvre par la découverte d'une missive royale reproduite sur la première page. Sa majesté a eu vent de ce que la ferme Von Lactum produisait le meilleur fromage du monde. En vertu de quoi, le roi souhaite convier un spécimen de ce meilleur fromage avec son accompagnateur en visite au château. Il a donc joint à sa lettre une place en train-couchette. On bascule alors dans le chapitre 1, titré « Le crime ». Je vous lis le texte des premières pages. Le train file à travers la montagne en grondant dans la nuit. Derrière la porte du compartiment numéro 2, Lisen von Lactum surveille son plus beau fromage. « Il ne faut pas que je m'endorme », se dit-elle. Mais évidemment, elle s'endort et se réveille au beau milieu de la nuit. Quelque chose cloche. Elle allume la lumière, regarde autour d'elle et pousse un hurlement tel que le fromage se craquelle de part en part. Il porte des traces de fesses. Quelqu'un a posé ses fesses sur le fromage, quelqu'un a fessifié le fromage du roi. Lisen von Lactum hurle sans pouvoir s'arrêter, le cri se diffuse de bout en bout du train, et puisque c'est un fait, le son se propage à la vitesse du son, il ne s'écoule pas longtemps avant qu'il ne réveille les autres passagers. Fin de citation. Nous sont ensuite présentés les occupants des six autres compartiments du train. Alertés par le cri, ils accourent dans la cabine du fromage profané. Le contrôleur Frischti tire alors l'alarme d'urgence et propose de faire appel au meilleur détective du monde pour arrêter le fessifieur au plus vite. C'est ainsi que nous faisons la connaissance de l'inénarrable détective Fluffenberg. Chevelu, barbu, toujours la pipe au bec, Fluffenberg est un enquêteur oisif et néanmoins fort imbu de lui-même. Ravi d'être appelé à la rescousse, il saute dans son hélico, passe prendre son ami le roi et rejoint le train couchette. Le détective en est convaincu, l'assassin se trouve parmi les passagers. Après avoir constaté l'étendue du fessifiage sur la scène de crime, il mène une série d'interrogatoires implacables. Monsieur Lebensraum avait-il une perruche quand il était petit? Monsieur Muesli aime-t-il le potage? A-t-il noté que le mot rime avec fromage, ce qui pourrait bien l'incriminer? Monsieur Frischti a-t-il quant à lui noté que tout dans son visage, nez, bouche, menton, était fesseux, avait l'allure d'un postérieur, autrement dit? Je ne vais pas ici bien sûr vous révéler le ressort de l'élucidation du crime, ce serait divulgâcher l'ouvrage, sachez qu'il est réellement inattendu. Au terme du récit, Fluffenberg est décoré par le roi et tout le monde déguste pour finir le fameux fromage. Réalisé à l'ordinateur avec un rendu qui ressemble à celui du crayon gras, les dessins de Kim Yortoy ont quelque chose d'enfantin et d'un peu rude à la fois, dans une gamme de couleurs réduite et plutôt sombre. Du choix de ce gros bloc marron informe pour représenter le fromage, au trait du visage du contrôleur Frischti avec ses joues à l'allure de postérieur, ils sont pour beaucoup dans la drôlerie de l'ensemble. Mentionnons aussi le génie de la traductrice Aude Pasquier, à qui l'on doit ce terme merveilleux de fessifiage et mille autres trouvailles qui rendent justice à la saveur des textes d'Erlon Lowe.
On entend Mathilde qu'on a donc plutôt affaire à une parodie de récits policiers en réalité.
Oui, mais si la tonalité est comique, le style, le rythme, la caractérisation des personnages, la progression du récit sont pour autant tout à fait fidèles aux grands traits du genre. Côté intrigue, on aura reconnu bien sûr l'allure de l'un des plus fameux romans d'Agatha Christie, Le Crime de l'Orient Express. Pour ce qui est des personnages, l'attention portée à celui du détective Fluffenberg, qui est à la figure de l'enquêteur, ce co-SS 117, pardon, est à celle de l'espion, en fait le plus savoureux d'entre tous, comme c'est souvent le cas dans les polars. Le rythme de la narration, très bien servi par le découpage graphique, est haletant, comme dans une vraie bonne histoire policière. Bien sûr, le ton a plus à voir avec l'absurde des Monty Python qu'avec celui des romans de Dashiell Hammett, mais si l'on rit beaucoup et du début à la fin, c'est aussi grâce au respect de la plupart des codes du genre. Au fond, cette histoire a davantage à voir avec le pastiche qu'avec la parodie. Pasticher en littérature, c'est écrire à la manière d'eux et toujours par là même rendre hommage, ce que les auteurs de cet album parviennent à faire admirablement.
Ça fait deux fois en deux jours qu'on cite Dashiell Hammett, Mathilde Wagman.
Que se passe-t-il?
Peut-être une émission se préparerait. Bon, on rappelle le titre de cette bande dessinée parodie de policiers.
Ouais, elle s'appelle « Qui a posé ses fesses sur le fromage du roi ?» d'Erlen Lowe et Kim Yortoy, album qui avait paru l'an dernier aux éditions de La Pastèque. Et je signale qu'une deuxième enquête de Fluffenberg paraîtra le 7 mai prochain. Elle s'appelle « Qui a fait disparaître la ville du roi ?» Je vous recommande d'en guetter l'arrivage en librairie.
Merci beaucoup Mathilde Wagman. Lecture jeunesse à réécouter, franceculture.fr. On arrive à l'heure du grand jeu des pages musicales. À cette heure-ci, on propose à nos auditeurs, auditrices, camarades, de chercher dans les livres l'apparition de la musique. Aujourd'hui, c'est une auditrice qui s'appelle Mathilde. Elle nous propose un extrait d'un livre qui s'appelle « Un perdant magnifique », publié cette année aux éditions de l'Olivier. C'est un roman de Florence Sévaux. Et dans cette scène, le personnage du père, Jacques, vient de dépenser une fortune en meubles alors que la famille n'a pas d'argent. Et l'antiquaire livre juste les meubles le soir du réveillon de Noël. À mon tour, j'ai chuchoté. Est-ce que maman le sait? Il faut aller lui dire non. Je crois qu'elle sait que c'est pas fini, m'a répondu Irène. Et elle a haussé les épaules. Qu'est-ce qu'on peut y faire? L'antiquaire était revenu et commençait à ramasser et plier les couvertures qui avaient servi à protéger les meubles. Mais c'est vrai que nous avons un réveillon, nous aussi, on allait presque l'oublier, a dit sa femme. Quand ils sont partis, un silence étrange est descendu sur le salon, rythmé par le scintillement régulier du sapin. « Maud !» a crié Jacques. « Viens voir !» Mais notre mère n'est pas sortie de la cuisine. « Non, ne viens pas voir tout de suite !» s'est repris Jacques aussitôt. « Nous n'avons pas fini !» Il a demandé à Irène de mettre un disque. Lui-même était en quête d'ampoules pour les nouvelles lampes. Irène a objecté qu'elle ne savait pas quoi mettre. « Quelque chose de gai, quelque chose de circonstance, les chants de Noël par Alfred Deller !» Quand toutes les lampes ont été allumées et que la voix d'Alfred Deller s'est élevée dans le silence comme si elle s'échappait de sous la mousse d'une forêt anglaise, Jacques a regardé autour de lui, lentement, ce salon qui s'approchait de son rêve de perfection, puis il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit « Maintenant, tu peux aller chercher ta mère. » À la cuisine, ma mère pleurait. Merci beaucoup, Clara Ludwig, d'avoir été avec nous pour évoquer votre bande dessinée Mohib sur le parking, parue aux éditions Dupuis, dans la collection Les Ondes Marcinelles. Au son, aujourd'hui, c'était Valentin Bobinet, à la réalisation Vivien Demeyer. Vous pouvez réécouter le Book Club et toutes les émissions via l'application Radio France. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club. Voilà, c'est tout. Grand merci.